Chapitre 8e, un message. La pièce dans laquelle Olympia avait reçu Amantius était une salle de réception et non l'appartement qu'elle habitait d'ordinaire. Ce salon était tenu, jusqu'à un certain point, à peu près selon l'usage habituel du monde, parce qu'Olympia ne pouvait obliger ses parents, qui venaient la voir de temps en temps, à entrer dans sa chambre où les tapis de pied étaient remplacés par de grossières nattes de paille, et où, au lieu de fauteuils et de chaises longues garnies de moelleux coussins, on ne voyait que les sièges les plus simples en canne tressée. Elle s'était réduite aux choses les plus indispensables de la vie, afin de pouvoir se livrer au moins au seul exercice de charité que la pauvreté et la captivité lui permettaient encore, le soin de quelques malades. Les pièces autrefois occupées par une partie de ces gens, elle les avait converties en hôpital, et sa chambre particulière était tout près. C'est là que rentra Olympia en quittant Amantius. Elle prit son ouvrage et se mit à coudre avec assiduité. C'étaient des nappes d'autel qu'elle confectionnait pour de pauvres églises. Autrefois, elle leur offrait tout ce qu'il y avait de plus riche en étoffe de ce genre. Maintenant, c'était du simple linon. Mais elle y mettait toujours le même sentiment de tendre charité. Olympia était une personne extrêmement noble et aimable. Dès l'enfance, au milieu de l'éclat du monde, elle avait connu la douleur et porté la croix. Tous les objets auxquels son jeune cœur était attaché lui avaient été ravis. Ce fut d'abord sa mère, puis son père, dont la mort l'attrista doublement parce qu'il n'avait pas connu la lumière du christianisme. Ensuite son époux, auquel elle était humblement dévouée parce qu'il était son époux et qu'il était pour elle plein d'affection et de bonté. Enfin, la fidèle gardienne et institutrice de sa jeunesse, de sorte qu'à 18 ans, elle resta absolument seule. Et cette solitude n'était pas seulement extérieure. Le monde ne comprit pas cette jeune veuve, qui, par sa beauté et sa richesse, pouvait briller, et qui repoussait tout éclat. Le monde eût compris plutôt cette retraite s'il avait eu pour mobile un chagrin inconsolable qu'Olympia aurait ressenti de la mort de Nebridius. Mais maintenant, le monde est une vieille coquette qui se croit belle, et qui s'imagine que ses attraits sont irrésistibles. Que quelqu'un lui fasse sentir qu'elle se fait illusion, aussitôt la voilà froissée dans sa susceptibilité, et elle ne le cache pas. Mais aucun mauvais vouloir, aucun blâme direct ou indirect, aucune prière, aucun reproche ne put faire sortir Olympia de la voie qu'elle avait reconnue être la sienne. Elle avait un caractère réservé et résolu. Ses natures, une fois en possession de la vérité, s'y attachent fermement et vont loin. Olympia connaissait assez le monde et son influence décevante pour comprendre la position dangereuse d'une veuve de 18 ans sans enfant. Elle connaissait assez la vie frivole d'un grand nombre de dames pour en tirer cette leçon. Ce qui leur arrive pourrait m'arriver aussi, si je n'évite pas les dangers de la route. Elle fut fidèle à cette règle, mais elle n'eut pas besoin de s'y cramponner comme à une planche de salut, car son cœur était plein d'un amour indicible, et son âme vivait dans une atmosphère idéale, où elle trouvait d'autres intérêts, d'autres joies, d'autres jouissances, d'autres buts. Elle aimait le Christ dans son Église. Elle aimait l'Église comme le paradis de l'humanité sauvée sur la terre. Elle vivait pour ce qu'elle aimait. Telle était Olympia, une des plus nobles figures de femme que nous offre l'Antiquité chrétienne, non un portrait de fantaisie. Il commence à faire sombre dans la petite chambre, qui, selon l'usage oriental, ne recevait de lumière que par l'ouverture de la porte, car les grandes pièces, les salons d'apparat recevaient seuls la lumière par le haut. Cette porte ouvrait sur une petite cour intérieure qui était pavée de pierres de différentes couleurs et au milieu de laquelle coulait une petite fontaine jaillissante. Olympia laissa tomber son ouvrage sur ses genoux et ses mains sur son travail. Ses beaux yeux s'arrêtèrent sur ce mouvant jet d'eau avec une expression de douce mélancolie. Cette ombre que les choses de la vie jetaient sur son âme. Elle n'entendit pas un léger bruit qui se produisit dans la cour, après lequel une femme s'arrêta tout d'un coup devant la porte et rejeta son voile en arrière. « Êtes-vous la noble Olympia ?» demanda l'inconnu. Théon la suivit de tout près. « Pardonnez, madame, j'ai eu beau dire à madame qu'il n'est pas dans vos habitudes de recevoir une heure aussi avancée. Madame n'a pas voulu se retirer. Elle est venue en chaise fermée. » « Apportez-nous une lampe, Théon, » dit Olympia. Puis, s'adressant à l'inconnu, « Qui êtes-vous et que désirez-vous de moi ? » ?»« je suis envoyé vers vous par la très noble Doxia, et je me nomme Gunhild. Je dois vous dire que la chute de l'homme qui vous persécute est inévitable. Vos plaintes auprès de l'empereur ne la précipiteraient pas, mais elles auraient plus de poids que beaucoup d'autres. « Qui êtes-vous donc ? » demanda Olympia étonné. « Pour que si jeune encore et étrangère comme votre langage le montre, vous m'ayez été envoyé avec une pareille mission de confiance. » Comme mon père est initié au plan de la très noble Doxia, elle a cru ne devoir s'ouvrir à personne qu'à sa fille. Mon père est Gainas, le général de la Légion gothique, et vous avez bien raison de dire que je suis étrangère dans ce pays et au milieu de ce peuple grec. Pauvre enfant, dit Olympia avec attendrissement. Non, vous vous trompez, répliqua fièrement Gunhild. La fille de mon père n'est pas une pauvre enfant, mais vous, vous me paraissez vraiment pauvre, car votre beau palais est vide et désert, et cette chambre est à peine digne d'une infime servante. Il en est de moi comme de vous, répondit Olympia avec un doux sourire. La fille de mon père n'est pas pauvre. Théon avait apporté une lampe d'argile et l'avait placée sur la table. Oui, reprit Gunhild, je sais que vous êtes très riche, car à la cour on parle souvent de vous, parce qu'on désire que vous vous mariez avec Elpidius. Mais pour le moment, vous êtes très pauvre. Une lampe d'argile, ça ne se voit que chez les pauvres gens. Aussi vous ferez tous vos efforts, n'est-il pas vrai, pour vous délivrer de votre bourreau ? Il y a quelques heures, j'ai fait ma réponse au chambellan Amantius, dit Olympia. Mais une réponse peu satisfaisante, sans quoi je ne serais pas ici, fit Gunhild. Pensez-vous que l'on change d'idée à chaque heure ? Demanda Olympia. Gunhild eut le même sort qu'Amantius. Elle resta interdite et muette. Au bout d'un instant, elle reprit avec hésitation. « À en juger par ma mission, votre résolution à cette occasion aurait pu se modifier. Non, pas essentiellement. Et c'est pourquoi je m'en tiens à ma réponse. Il y aura bien assez de plaintes et de témoignages venant de personnes dont la parole est aussi forte que la mienne. « Vous êtes très généreuse, » dit Gunhild, d'un ton interrogateur, « ou très fière. » « C'est ce que je ne sais pas, » dit Olympia. « Mais ce que je sais, c'est qu'il est écrit « Aimez ceux qui vous haïssent et vous persécutent. Ce que je sais... » Elle s'arrêta brusquement. « Pourquoi vous taisez-vous ? Laissez-moi connaître vos raisons, » fit Gunhild du ton de la prière. « Vous êtes de race gothique et par conséquent arienne, » demanda Olympia. « L'une et l'autre, » répondit fièrement Gunhild. « Vous ne pourriez donc comprendre ma dernière pensée, car l'amour du Christ, qui n'a point de haine pour ses bourreaux, prend sa source dans la foi chrétienne, et vous ne la connaissez point. » « Je ne la connais point, » dit Gunhild sérieusement, « mais Doxia la connaît, et pourtant elle pense et agit tout autrement que vous. Chacun de nous rendra compte de ses actes, et non de ceux du prochain. Aussi, nous devons d'autant moins juger la conduite des autres qu'elle est indépendante de notre propre conduite, » répondit Olympia avec douceur. Eudoxia fait ce dont elle croit pouvoir répondre. Ainsi, elle sera toute disposée à me laisser mon entière liberté d'action. « Ah, pourquoi ne venez-vous jamais à la cour ?» dit Gunhild. « Vos parents viennent, ainsi que beaucoup d'autres dames, faire visite à Eudoxia, mais vous, vous ne paraissez jamais. » « Depuis la mort de mon mari, je mène la vie calme et retirée d'une veuve, telle qu'elle me convient. D'ailleurs, depuis 3 ans, je suis dans la disgrâce de l'empereur, et en outre, mon pauvre costume jurerait trop au milieu de vos toilettes éclatantes de broderies d'or. « Il est étrange, mais beau, » fit Gunhild. « Je ne sais pourquoi. » J'ai envie de pleurer ici auprès de vous. Cela me fait peine, dit Olympia amicalement. Pas à moi, noble dame, pas à moi, répondit Gunhild avec des larmes qui brillaient dans ses yeux. Il faut que je parte, mais je vous remercie. De quoi ? Avez-vous bien compris ma réponse ? Demanda Olympia. Je vous remercie de ce que vous êtes comme vous êtes, dit Gunhild, en promenant un regard autour de la pauvre petite chambre. Dans les salons dorés de l'Hebdomon et du palais Constantin, je ne vous oublierai jamais. « Mais soyez sans inquiétude, j'ai bien compris votre réponse, et je la rapporterai ponctuellement. » Elle se leva et entra dans la petite cour. Olympia la suivit, pour l'accompagner jusqu'à la porte qui conduisait au pavillon de devant par un portique où Théon attendait. La cour était éclairée par la lune, dont la lumière transformait en perles diaphanes et bigarrées les gouttes d'eau de la fontaine jaillissante. Les grandes étoiles brillaient de leur éclat le plus pur et le plus doré dans les calmes régions du ciel. « Les astres sont vos flambeaux, et les éléments vos portes-lumière, » dit Gunhild. « Adieu, âme bénie. » Théon se montra et Gunhild disparut avec elle. Olympia ne retourna pas à sa chambre. Elle se rendit dans une salle silencieuse où se trouvait le corps de celui dont elle avait consolé l'agonie. Elle veilla et pria auprès de lui jusqu'au matin, où elle fut remplacée par une de ses femmes.